Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corsa avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 € et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000 € déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. Yes égale oui. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Parce que pour les ça touche aussi, et c'est bon, c'est toujours un peu étrange de le dire, mais ça touche aussi à la virilité de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore plus tabou quand comme vous pensiez vraiment ne pas être concerné par ce sujet, et ça vous est encore une fois tombé sur la tête. Votre petite fille s'appelle comment?
Oh, elle a un très joli prénom. Elle s'appelle Estelle, et parce qu'en fait,
ah oui,
c'est
joli.
C'est une belle étoile qui nous a guidés dans tout le parcours, je pense.
Et oui, Estrella, Estelle. Et elle a donc 2 ans aujourd'hui, un peu plus de 2 ans.
C'est ça, elle aura bientôt 3 ans, oui.
Vous lui raconterez un peu le parcours?
Oui, je pense que c'était la première raison d'écrire le livre. C'était pour lui offrir le chemin qu'on a parcouru avant qu'elle soit là. Et bien sûr, on l'a écrit, quand j'ai écrit le livre, je ne savais pas si on aurait un enfant ou pas. Et c'était tout simplement pour se dire que peu importe le résultat en fait de ce qui nous advenait, je voulais qu'il y ait une trace en fait de ce qu'on avait vécu avec ma compagne. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait l'écrire, parce que si on l'écrivait pas, alors on était en train d'effacer une partie de ce qu'on avait vécu.
De votre histoire, bien sûr. Deux petites questions. Votre couple en est ressorti plus fort?
Je pense que oui, on est ressorti plus fort, mais parce que c'était, je pense, que c'est une épreuve qui nous a fait grandir. En fait, c'était pas que il y a le fait d'avoir l'infertilité, et après il y a toutes les questions que ça a levé et qui nous ont permis qu'on puisse en réfléchir ensemble pour trouver des bonnes réponses et des choses qui sur lesquelles on était tous les deux d'accord du coup. Donc en fait, c'était pas qu'une épreuve d'avoir un enfant, mais c'était un vrai parcours de vie. Et
oui,
d'une façon de
communication.
La relation à l'autre, la communication, qu'est-ce qui est aussi important dans la vie, pourquoi est-ce qu'on a envie de se battre au quotidien. Et ça, c'est un événement qui a réellement changé notre façon de voir comment on allait aborder le lendemain. Et tellement que, ne serait-ce que par rapport en effet aux enfants, pour moi, c'était important d'avoir des enfants, mais c'était un élément de la vie. Au contraire, quand notre fille est née, on s'est tous les deux dit, on a envie maintenant de partager ce moment-là, et justement de ne pas se trouver dans le cas où on entend tous ses parents qui disent oh, ça passe trop vite, il faut que vous en profitiez. Alors on a décidé de prendre un congé parental. On a voulu prendre un congé parental pour pouvoir le vivre pleinement, en fait, et se dire, on a tellement eu de difficultés pour avoir cet enfant, maintenant on a envie de le savourer, en fait, et
oui,
de savourer
c'est ça.
La vie.
Vous en avez profité pour vous prendre d'ailleurs un congé de quoi, de 7 mois à peu près, c'est ça?
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir prendre 7 mois de congé parental, et c'était pour moi un temps qui était important pour accueillir en fait la vie et comprendre ce qui nous était aussi arrivé, parce qu'on était un peu dans une machine à laver ou comme je disais en apnée dans l'espoir que ce jour arrive. Et donc quand la naissance arrive, c'était le moment de se dire maintenant il faut qu'on reprenne un peu du souffle. Voilà.
Alors, on a un petit message de Blandine, de Blandine qui nous dit « Tellement admirative de ces couples confrontés à cette paternité, l'un de mes fils et sa femme attendent enfin un bébé après 2 ans de ce parcours difficile. Vive la vie !» Et puis ma dernière question, je ne sais pas si elle est trop indiscrète peut-être, je ne sais pas, vous n'êtes pas donc obligé évidemment d'y répondre. Vous allez tenter peut-être une autre FIV pour un deuxième enfant ou pas?
Ça c'est une bonne question, je pense qu'il n'y a que la nature qui peut définir de quoi est fait le futur. Mais ce qui est le plus important je pense c'est de réussir à en parler. Et je pense que je vous remercie en fait d'avoir pris mon appel, parce que pour moi c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on arrive à faire en sorte que ce sujet sorte un peu de son silence. Et ça, c'est en fait, c'est très drôle, mais je le disais là, c'est les dernières lignes de mon livre. C'est les dernières lignes de mon livre.
Ouais.
Ça se termine par mon rêve est de présenter ce livre à la radio aux heures de grande écoute. Et je pense que à cette heure-ci, on est typiquement sur les heures de grande écoute pour parler de ces sujets intimes. Et donc, pour que ce tabou de l'infertilité dans l'infertilité masculine, aujourd'hui dans son silence, devienne une réalité à part entière et une composante de notre présent. C'est, pour moi, c'est, oui, en parler, c'est déjà un rêve. C'est déjà se dire que c'est ce qu'il faut faire pour permettre que tous ces couples qui sont actuellement dans cette situation se sentent plus entourés et mieux accueillis.
Eh bien, écoutez, c'est fait et c'est dit. Je rappelle votre livre, donc ce livre sur ce tabou, le tabou du tabou, comme vous l'appelez, l'infertilité masculine, dossier 2931, édition Cohen-Cohen. Merci, merci beaucoup Arthur d'être intervenu sur cette libre antenne, de nous avoir confié votre histoire. Longue vie à cette petite Estelle qui lira un jour, qui tournera les pages de ce livre et qui découvrira un peu l'histoire de ses parents, de cet amour fou, de cet amour qui vous a mené à cette naissance, à ce combat quand même, à ce parcours, et puis longue vie à votre couple.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Et bonne soirée à vous. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne revient ce soir à partir de 22h30 et jusqu'à 1h. Vous retrouverez Roland Pérez, alors pour lui confier tout ce que vous avez sur le cœur, pour parler de vos peines, de vos joies. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Dans un instant, l'émission littérature d'Europe 1, La Voix et Livre, avec Nicolas Caro. Nicolas Caro qui nous donne rendez-vous tous les dimanches de 18h à 19h. Et donc on va le retrouver juste après Pascal Obispo qui célèbre Michel Delpech en réorchestrant plusieurs de ses succès tout en préservant la voix originelle de Delpech. L'album sortira bientôt, en voici un premier extrait et c'est pas mal du tout. White is white.
White is white. J'ai les pieds nus, comme un cyclone inattendu. Comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons à laquelle on n'a jamais cru. White is white, Dylan is Dylan. White is white. He's waiting. White, hippie, hippie, hippie.
après la disparition de Michel Delpech, Pascal Obispo lui rend hommage dans un album qui sortira cette année et dont on vient d'écouter le premier extrait, White is White, et avec la voix de Michel Delpech. Allez, place tout de suite à l'émission Littérature d'Europe 1, La Voix et Livre. C'est tous les dimanches de 18h à 19h sur Europe 1 avec Nicolas Carreau.
Europe 1, 18h-19h,
La Voix et Livre,
Nicolas Carreau.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. Attention, écrivain génial, vous allez voir cette semaine avec le romancier Florent Oiseau. Visite de bibliothèque, ensuite nous partirons chez un autre romancier génial, Gilles Marchand, le soldat désaccordé, vous vous souvenez. Mais d'abord donc, c'est l'invité, et lequel? La Voix et Livre, c'est parti, premier chapitre. C'est un habitué de La Voix et Livre, on le connaît pour Tout ce qui manque, ou Les Magnolias, ou Je vais m'y mettre. Il revient avec Magloire, c'est chez Gallimard, l'histoire d'un type à la dérive. Un classique chez Florent Oiseau, oui mais celui-là, il y va à fond, il vient de se faire virer et il décide de rien faire, puisque c'est mieux que tout le reste. C'est terrible à dire, parce que ça le détruit aussi, mais il a l'alcool heureux. Bonsoir Florent Oiseau.
Bonsoir Nicolas Carreau.
J'aime bien parce que vous avez toujours ce côté... Bukowski tranquille, c'est-à-dire que j'imagine qu'on doit toujours vous comparer à Bukowski, ça doit être un peu pénible à la force, parce que c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup plus de délicatesse chez vous, il y a de la douceur aussi chez Bukowski, mais chez vous, il y a une réflexion plus large sur ce phénomène du traînard.
C'est en tout cas, c'est lui qui m'a fait entrer dans les livres. Je le lis plus tellement actuellement. Mais à une époque où je pensais que les livres étaient une sorte de sanctuaire dans lequel je n'avais pas le droit de citer, et puis ceux qu'on m'imposait à l'école, je ne comprenais rien à ce qui s'y passait. Lui, en tout cas, m'a permis d'entrer dans un univers que je comprenais. Et le roman que je préfère de Bukowski, c'est Souvenir d'un pas grand-chose, qui est déjà un titre parfait, et qui est probablement son roman le plus tendre et le plus mélancolique. Donc ça me plaît d'être un Bukowski guilleret.
Et qu'est-ce qui vous fascine chez les traînards qui sont souvent vos héros, en fait, même toujours?
Mais déjà, j'appartiens à cette caste. et puis, y a un rapport au temps, un rapport aux injonctions et aux impératifs. Et il y a une forme de liberté qui me paraît presque anachronique dans le monde dans lequel on vit. Et ça me touche énormément.
Et alors, le héros, le narrateur, il a un rapport à l'alcool très ambivalent. Très particulier, très intéressant aussi, parce que c'est pas binaire, c'est pas l'alcoolique contre le type sain. Lui, il le dit, il a l'alcool heureux, il adore ça, il sait que c'est mal, il sait que c'est pas bien, mais il va tous les jours consommer ses bières et son guignolet, parce qu'il boit des alcools un peu doux comme ça, mais il en boit beaucoup, et il aime ça, et il a un rapport comme ça très particulier à l'alcool.
Parce qu'en règle générale, quand on parle de l'alcool et de toutes les addictions, il faut toujours que ça prenne racine dans un drame, dans un décès, dans une dépression. Et je suis pas persuadé qu'il faille à chaque fois un point de départ pour expliquer ce qui fait qu'une consommation est excessive ou qu'une addiction nous prend beaucoup de notre temps. Et lui est très lucide sur ce que l'alcool lui prend, mais il est aussi très lucide sur ce que ça lui apporte. Mmh. Et j'aurais presque plus tendance à me méfier des gens qui n'ont aucune addiction par rapport à ceux qui en ont et qui savent, en tout cas, leur attribuer une place raisonnable, ce qui est en revanche pas tout à fait son cas.
Alors je dis qu'il fait rien, il bosse un peu, c'est-à-dire qu'il fait des petits trafics, il a un contact, on l'appelle le contact d'ailleurs, qui est un type qui connaît un peu les... Bon, on est dans l'Est parisien, mm-hmm. Et puis c'est un type qui connaît un peu tous les petits business possibles à faire. Lui, il fait du trafic de vernis par exemple, on lui donne des caisses de vernis, on sait pas trop d'où ils viennent, du vernis pour les ongles, et puis il les revend à des détaillants, comme ça...
Je crois que
ça sent le vécu en fait, c'était ça.
Ouais, parce que pour moi le lieu le plus romanesque qui existe, j'ai longtemps pensé que c'était l'aire d'autoroute, et en fait il n'en est rien, c'est le salon de manucure.
Et l'aire d'autoroute a beaucoup de qualités aussi.
Et j'en ai fréquenté un, alors pas ni pour mes ongles ni pour mes cuticules, et j'en avais presque fait une sorte de bureau à une époque révolue désormais, et je crois que c'est à partir de ce moment-là où ma fascination pour le vernis à ongles est née, et donc c'était, je m'y connais un petit peu, et quand il s'agissait de lui trouver un trafic interlope, ça m'a paru être une évidence.
Alors, ce qui est étonnant avec ce narrateur-là, dans Magloire, Florent Oiseau, c'est que d'habitude, c'est un héros un peu solitaire, ou qui vient de rompre, ou qui était solitaire déjà. Là, c'est un héros traînard installé. C'est-à-dire, il a sa femme, Almeria, qu'il adore, qui laisse faire, qui sait qu'il a cette addiction et qu'il laisse faire, qui accepte d'une certaine manière, elle n'est pas d'accord, mais elle accepte quand même. Et puis, il a surtout une petite fille qui va lui proposer quelque chose.
C'est vrai qu'en règle générale, comme ils sont livrés à eux-mêmes, les enjeux sont assez moindres. Là, ça me semblait important de le faire évoluer dans un foyer. Et alors, un foyer qui, certes, petit à petit, est fragilisé par ses addictions, donc l'alcool et la nuit, qui en est une aussi. Et je voulais raconter un foyer qui est quand même soudé. Et ce foyer est soudé malgré le drame qui plane en permanence au-dessus de leur famille, jusqu'à ce jour où sa fille lui apprend qu'il est choisi pour incarner une fée dans le spectacle de fin d'année de l'école. Lui ne s'en souvient pas, mais il a visiblement donné son accord dans le carnet de correspondance, encore embrumé de la veille au petit matin. Et donc, il va essayer de trouver enfin un rôle à sa mesure.
Ah oui, parce qu'il essaye de refuser, mais c'était compliqué de refuser un rôle de fée à une petite fille de 10 ans comme ça à l'école. Et donc il y va, il bosse un peu, hein, parce qu'il faut apprendre du texte et tout ça. Bon, alors il loupe les répétitions quand il y en a, mais quand même, il y va, il apprend, il essaye, quoi.
Ouais, il n'a pas envie d'être une fée manichéenne, il n'a pas envie d'être une passeuse de plat au service de la pièce, et donc il y met une espèce d'énergie improbable et absurde, parce que tout son métier de père, il le rate, et là il a probablement l'impression que s'il est une fée convaincante pendant le spectacle de l'école, tout sera lavé, tout sera nettoyé.
En fait, vos héros sont souvent des misanthropes, mais ils sont souvent sauvés par les autres quand même. La dernière fois, c'était aussi un type dans le même genre, mais qui avançait parce qu'il voulait écrire un grand roman pour récupérer sa copine qui l'avait quitté. Pareil, c'était son moteur, c'était quand même les autres. Là encore, c'est le cas, c'est souvent le cas. Ça les sauve quand même. C'est pas juste des solitaires qui sont dans leur coin en train de picoler.
Non, et puis en règle générale, mon personnage principal m'intéresse assez peu. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à leur trouver de prénoms. D'ailleurs, j'envie votre créativité quand il s'agit de trouver des noms aux personnages. Je vous demanderai vos secrets, mais moi, j'en trouve de moins en moins. Je m'amuse pas du tout à les décrire physiquement. Mm-hmm. En revanche, je m'amuse énormément avec les personnages secondaires. Et bon, j'ai pas envie de faire de la philosophie de comptoir, mais je crois que de soi on en a vite fait le tour. Or les autres sont un perpétuel terre à entreprendre.
Y a un personnage secondaire justement qui va arriver très vite. C'est dans le cimetière de Charonne, qui est un cimetière de Paris pas du tout touristique. Et il y a un personnage qui est là-bas, qui y reste. Et on va en parler dans un instant. À tout de suite, Florent Oiseau sur Europe 1.
Europe 1, 18h-19h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Florent Oiseau pour son nouveau roman, on est content, Magloire, c'est chez Gallimard, et c'est l'histoire d'un type, un traînard, qui picole un peu toute la journée, qui aime ça d'ailleurs, même s'il est en train de se détruire avec cette addiction. Or, il a une femme assez géniale et compréhensive, et puis il a une petite fille surtout, qui lui propose, qui lui impose même de jouer dans la pièce de théâtre de l'école, et lui devra jouer le rôle de la fée, tandis qu'elle jouera le rôle d'un papa, justement. Et bon, ils s'entendent très bien les deux, et ça le sauve un peu. Et souvent, il va se balader, y compris avec elle, dans le cimetière de Charonne, qui est un cimetière parisien, pas du tout touristique, comme Montparnasse ou le Père Lachaise. Et c'est un cimetière dans lequel il y a un personnage étonnant, et qui s'appelle Magloire. Enfin, il y a une statue, un monument, et en dessous, on peut lire, Florent Oiseau, puisque vous le citez dans ce roman, Ici repose Bègue dit Magloire, peintre en bâtiment, patriote, poète, philosophe et secrétaire de Monsieur de Robespierre. Carrément, quoi. Qu'est-ce déjà, que c'est que cette histoire?
Déjà, on dirait mon CV, un peu de choses près. c'est un tout petit cimetière, c'est le plus petit cimetière de Paris et le deuxième plus ancien, je crois. Et il jouxte le Père Lachaise et il y a des... Bon, moi, j'y atterris par hasard. Il est derrière l'église de la place Saint-Blaise, donc on le voit. Il faut savoir qu'il est là ou avoir du temps à perdre, ce qui est globalement souvent mon cas. Et il y a tout de suite des espèces de similitudes qui m'ont amusé, c'est-à-dire que le Père Lachaise fait 42 hectares, lui en fait 0,42. Et en effet, dans ce cimetière, il y a une seule statue. D'un homme visiblement satisfait de ses accomplissements ici-bas, ce qui est souvent le cas. Et donc j'ai vu cette épitaphe et je me suis dit, mais ça veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc j'ai fait des recherches et je suis allé un peu aux archives, j'ai regardé sur Internet et j'ai découvert que visiblement il s'agit d'un mythomane absolu. Robespierre n'a jamais fait mention de lui nulle part, alors qu'il disait être son secrétaire. Je suis tombé sur des sources qui le citaient comme une sorte de rebouteux, de dandy misérable, et je me suis dit ok, ça c'est pour moi. Et en fouillant encore, j'ai découvert que c'était un type qui à sa mort, mais je vais pas trop en dire, avait organisé une sorte de beuverie géante pour tout le quartier, mais on n'a jamais su comment est-ce qu'il a financé sa tombe et sa sépulture. Quand même assez
là, il a
imposant.
Payé une tournée générale le jour de ses funérailles.
Exactement.
Et donc, lui qui n'était pas connu du tout a été fêté et on a bu beaucoup le jour de ses funérailles en son honneur.
Et donc, quand mon personnage découvre ça, il décide de partir à sa recherche et savoir qui il était vraiment. Et donc, ça devient une espèce de quête. Mais en réalité, qu'il s'agisse de cette enquête absurde ou de ce rôle de fait dans un spectacle de fin d'année, ou même de tout ce qui loupe, de tout ce qui rate, de tout ce qui manque parce qu'il sort le soir. Il s'agit en fait, tout s'imbrique, parce que c'est les histoires qu'on se raconte en fait pour le quotidien ou pour le jour d'après.
Mentir de son vivant, c'est une chose, écrivez-vous. Fabriquer une fausse légende pour l'après, ça c'est de la poésie et rien d'autre.
Ouais, là c'est sublime. Et puis ça marche, puisque 230 ans après sa mort, je sais plus exactement quand il décède... Il se retrouve dans un roman, donc il a réussi son coup, ce François Bègue.
J'en dis pas trop, parce que je laisse les lecteurs découvrir ce que lui va découvrir avec sa fille sur ce personnage. Mais est-ce que vous racontez sur la découverte, sur ce qu'on sait de ce personnage, tout est vrai?
Non,
vous avez inventé des choses aussi.
J'ai pris quelques libertés, mais déjà, je me suis dit bon, je vais faire mon Génada, je vais aller aux archives. J'ai pas découvert grand chose. J'ai quand même vu son avis de décès. J'ai fouillé un peu, puis très vite, je suis allé au bar en face, et c'est comme ça que l'enquête s'est terminée. Donc ensuite, j'ai pris certaines libertés. Je suis vraiment allé dans cette ville de Côte d'Or où il part à sa recherche.
Mon bar,
oui. Forcément.
Tout se regroupe.
Mais j'ai pris quand même certaines libertés. Ouais.
Mais tant mieux, parce que vous écrivez aussi « L'avantage du mystère réside dans le fait de pouvoir l'habiller de toutes les capes. La vérité est un dictateur. »
Oui, moi je suis souvent déçu quand il y a une résolution. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les livres avec des fins ouvertes. Quand je parle en tant que lecteur, pas en tant qu'auteur. Idem pour les films. J'aime bien... me faire ma propre fin et pouvoir imaginer les destins possibles des personnages.
Alors, le destin de ce héros, c'est donc de devenir une fée. Et il n'a pas de problème justement avec des histoires de virilité, parce qu'il dit « Je me sais attendu sur des réticences liées à la virilité et je ne leur fais pas ce plaisir, j'ai entamé ma déconstruction bien avant que ce soit dans l'air du temps. Je fais des exercices pour muscler mon périnée. Je suis curieux et intuitif, je lis mon horoscope. En bref, la femme en moi n'a pas à s'en faire pour son espace. Au contraire, elle le prend sans rien me demander et je ne suis pas du genre à défendre mon territoire. » Il y avait ce problème de la virilité qu'il fallait évacuer, quoi. Vous avez décidé que ce serait une fée?
Bien incapable de l'expliquer. Je sais exactement le jour. Je vois l'odeur de l'air ce jour-là. J'ai tout à fait la luminosité en tête. Je vois exactement où je faisais mes courses, mais je varie assez peu. Et je sais que je suis rentré et que j'ai tout de suite vu une sorte de type à la dérive, de héros improbable, pas du tout une sorte de bellâtre. Et j'ai tout de suite vu un type avec un costume de fée. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune explication à donner.
Et ça, ce que j'aime bien aussi dans vos romans, c'est que on ne sait jamais d'où vous parlez vraiment. Vous êtes un peu au milieu ou au contraire à l'extérieur. Et là, par exemple, on voit bien que vous vous moquez à la fois du virilisme, mais aussi des histoires de déconstruction et tout. C'est même pas que vous vous en moquez, c'est que vous mettez les deux un peu comme ça dans un truc, un peu dos à dos.
Je fais ça pour absolument tous les sujets, d'ailleurs.
Vous désamorcez tout, en fait.
Moi, j'en ai rien à secouer et on m'embête pas trop. Et effectivement, sans avoir l'air de trop y toucher, ou comme tout le monde, pareil au niveau des régions, dans mon premier roman, je mettais des cartouches à la Seine-et-Marne et au nord de la France. Ma mère m'a dit, tu vas te faire des ennemis. Et donc, dans chaque livre, il y a une région qui prend une cartouche totalement gratuite et je crois que ça fédère. Et donc, je n'ai pas d'ennemis.
Ouais. Et le narrateur note des phrases de temps en temps dans un petit carnet. Et par exemple, il note « Le bonheur est un fil d'Ariane sur lequel je fais de la tyrolienne ». On va en parler dans un instant. On va aussi parler de cuisine, parce qu'il y a toujours de la cuisine dans les livres de Florent Oiseau. À tout de suite sur Europe.
18h-19h, La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est livre continue toujours avec Magloire, le nouveau roman génial de Florent Oiseau. C'est chez Gallimard, c'est une balade de 170 pages. On est bien, on a l'impression d'être au bistrot avec un gars qui nous raconte une histoire. C'est à peu près ça l'idée que vous faites de la littérature finalement, Florent Oiseau.
Ouais, c'est comme ça que je l'appréhende et c'est comme ça que j'aime aussi la consommer quand je suis de l'autre côté de la barrière. Donc ouais, ça me va très bien comme définition.
Et alors, c'est évidemment émaillé de phrases. De temps en temps, le héros pense à des phrases, comme j'ai cité tout à l'heure, « Le bonheur est un fil d'Ariane sur lequel je fais de la tyrolienne ». Il y a des aphorismes comme ça. Et à la fin, en fait, du roman, on a accès à son carnet. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de phrases qui étaient dans le roman et qu'on retrouve toutes à coller les unes aux autres. Pourquoi vous faites ça dans le roman? C'est une sorte de...
Bah, déjà, j'ai des tocs et je crois
qu'il y a... Mise
en abîme ? Ouais, je fais toujours des listes. Il y a souvent des listes. À une époque, j'avais un personnage qui s'interrogeait sur les noms de poneys les plus donnés. Donc, je sais pas si c'est les moments.
Éclair et tout ça.
Je sais pas si c'est des moments du texte où je sais plus trop quoi raconter ou si au contraire, ça fait vraiment partie de mon mode opératoire. Et là, ce que je trouvais important, c'est donc qu'il a son petit carnet et parce qu'il est quand même très très concerné par la fois par la pièce par son enquête pour découvrir qui était ce type sur le Magloire et je trouvais qu'à la fin en fait de parce qu'il y a aussi des citations qu'il ne note pas mais qu'on découvre à la fin dans le carnet je trouvais que ça permettait d'avoir tout le fil de l'histoire. Et de...
Ouais, de par voilà, les aphorismes, on revoit tout le roman d'un seul coup. Mm. Ouais, très bonne idée. On parle aussi souvent dans vos romans de cuisine l'air de rien. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur une scène improbable, à la fois sensuelle et en train de cuisiner un filet de limande avec du riz et du citron. Ensuite, il sera question de soupe à l'oseille et puis aussi des panzerotti. Qu'est-ce que c'est les panzerotti? Vous avez l'air d'être un spécialiste.
Non, pas tellement en fait. Oui, il y a tout un tas de cuisine. Il mange aussi un plat ivoirien que j'aime beaucoup, qui est le plat Kali sauce graines. À un moment, il erre aussi. Enfin, il y a un flashback qui se passe dans un coin du 10e arrondissement où il y a. C'est un endroit qui existe qui est formidable d'ailleurs, où on peut boire des soupes à n'importe quelle heure de la nuit. Et c'est un tout petit restaurant turc qui existe depuis 1981, je crois, et qui est ouvert de 5h du matin jusqu'à 1h du matin. Donc ça va faire à peu près 20h tous les jours depuis 40 ans. Et sur les panzerotti, je sais même plus. En fait, j'en avais mangé à Vérone, j'avais trouvé ça incroyablement décevant. Et donc je me suis dit, ça, ce serait super à caser dans un livre, cette espèce de beignet très gras. Ce serait des...
Des chaussons, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ce serait des... ah mince, le nom m'échappe.
Des empanadas.
Mais... Ouais, ce serait des empanadas qui auraient un peu raté leur vie, je pense.
mais ça rajoute de la réalité dans vos romans, de comme ça, de mettre un peu de la gastronomie facile.
Ouais, facile. Et puis, je mets aussi des plats qu'on, je pense, que avoir dans un roman à la fois une soupe à l'oseille, une soupe ishkembe, dédicace à mes amis turcs, et un plat kali sauce graines. Je pense que Et c'est pas le cas fréquemment, mais j'ai eu la chance de vivre les 30 premières années de ma vie en Seine-Saint-Denis, et donc j'ai goûté un peu à toutes les cuisines du monde, et je suis content de pouvoir leur faire une petite dédicace à l'occasion.
C'est aussi un roman sur le couple et la fidélité. Je lis un extrait. « Je ne le vois plus car sa compagnie ne m'apporte rien et qu'il me considère avec la suffisance de ceux qui ne boivent qu'à table. Mais quand je le croisais encore dans une autre ville, il se vantait de sa loyauté envers sa femme. En 15 ans, pas un virage !» C'était sa phrase fétiche. Comptable dans une boîte à Courbevoie, pavillon à crédit dans le centre-ville de Neuilly-Plaisance, une heure de transport aller, une autre au retour, toujours les deux, même comparses à la cantine, des quadragénaires du même sérail, passionnés par les modèles réduits de sous-marins de l'armée russe et amateurs de vin de Loire. »
Oui, c'est un ami qui ne voit plus pour des raisons obscures, mais en fait non, pas du tout, parce que la vie a fait en sorte que. Et donc c'est un ami qui se vantait d'être absolument fidèle, et donc c'était son mantra en 15 ans, pas un virage. Bon, lui explique qu'en fait, s'ils sont fidèles tous les deux, c'est parce qu'ils n'ont pas le moyen d'être infidèles. C'est très facile de l'être quand on n'est pas convoité, et c'est à la fois le cas de cet ami et de mon personnage.
Ouais, mais dans le personnage, en fait, lui est infidèle aussi, parce que sa maîtresse, c'est la bouteille, et sa femme accepte, et lui, en échange, il accepte qu'elle aille voir ailleurs des types. Bon, ce sera peut-être plus compliqué que ça, on verra. Mais il y a une réflexion là-dessus, et sur les péripéties dans le couple.
Oui, il y a un accord tacite, il le dit, elle découche, lui boit, mais il ne cumule pas les mandats, parce que sinon...
Oui, mais justement, il fait comme si boire, c'était une péripétie, comme si c'était un truc, une aventure.
Bah, parce qu'en définitive, entre l'infidélité bien ficelée de sa femme et ses excès à lui... qu'est-ce qui fait le plus de mal au foyer, c'est ce que lui fait, et il a au moins cette lucidité-là, c'est de ne pas lui en tenir rigueur, ou du moins de l'accepter et de taire le ressentiment.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses en 170 pages. Il y a l'histoire aussi avec sa fille. Tout est toujours omniprésent. On a l'air de partir à chaque fois sur des thèmes très, très différents et de s'éloigner de ceux dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la statue de Magloire, c'est-à-dire le spectacle de fées, c'est-à-dire les petits trafics. Mais en fait, tout est resserré. Il y a une sorte de canevas quand même qui se crée, très bien tenu, très cohérent. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail sur le texte en lui-même, sur la structure, ou est-ce que c'est écrit au fur et à mesure, et vous rattrapez à chaque fois les éléments comme un jongleur?
Sur le texte, je suis un obsessionnel, c'est-à-dire que c'est énormément de travail sur chaque phrase. Par contre, sur la structure, en règle générale, d'ailleurs, on me le reproche assez, qu'il ne se passe rien dans mes livres. Et là, pour une fois, il se passe quand même pas mal de choses, et tout s'imbrique. Et pour être très honnête, c'est uniquement lié à la chance. C'est-à-dire qu'à un moment, à chaque fois, je me suis dit, si j'attrape cette branche-là, je vais m'y retrouver, ça va être top. Donc là, c'est chouette parce que il y a rien de gratuit, ce qui est parfois le cas dans mes romans. Et chaque histoire sert la suivante ou la précédente. Mais c'est plutôt lié à la chance parce que, comme d'habitude, je suis parti sans plan, ce qui est le cas dans ma vie en règle générale d'ailleurs.
Alors, vous n'avez pas ce genre de vanité, mais quand même, vous venez d'arriver à la collection blanche de Gallimard, très prestigieuse. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Je sais que c'est évidemment une forme de reconnaissance. Ce sera très joli dans la bibliothèque de mes parents. Je ressens de la fierté, mais en fait, ça s'est fait très naturellement. Mon précédent éditeur, que j'aime beaucoup, j'avais décidé de partir parce que j'ai eu l'impression que j'étais à un moment où il fallait que j'essaye autre chose, mais j'avais été appelé par personne, parce que dans le milieu littéraire, j'existe assez peu, je le fréquente assez peu, donc je croule pas sous les sollicitations. Et une éditrice illuminée est venue me trouver quelques mois après, j'avais commencé à écrire un roman.
Charlotte Van Essen.
Exactement. Et j'ai tout aimé de ce qu'elle m'a dit de son rapport au livre, aux auteurs, aux gens. Et il s'avère qu'elle est éditrice chez Gallimard, mais je crois que je serais parti avec elle.
C'était pas la question.
Peu importe l'éditeur, ouais.
Magloire, donc, c'est chez Gallimard. Et c'est signé Florent Oiseau. Merci beaucoup, Florent
Merci,
Oiseau.
Merci, Nicolas Caron.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez l'écrivain Gilles Marchand.
Europe 1, 18h-19h, la voix est libre.
Nicolas Caro.
Gilles Marchand est un romancier super, je vous en ai déjà parlé. Il est venu dans l'émission déjà, Le Soldat désaccordé, Les Promesses orphelines, c'est lui. Voilà qu'il publie une bande dessinée, Nos accords imparfaits, c'est chez Casterman, l'histoire d'Anton et Hélène, un couple. Il est livreur, elle est violoncelliste, ils se sont un peu éloignés. Et un jour, il doit livrer un colis à une adresse étrange, et la destinataire, c'est Hélène. À découvrir, illustré par Cécile Dupuis. J'étais curieux de voir de quel livre Gilles Marchand se chauffe, c'était l'occasion. Alors j'y suis allé, et vous venez avec moi sur Europe 1. Bonjour Gilles Marchand.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est rigolo chez vous, on se croirait un peu dans un sampé. C'est au bout d'une petite rue, une impasse en fait. Et au bout de l'impasse, il y a une société qui fait du
carrelage.
Ouais. Et à l'ancienne, on a l'impression d'être dans les années 60. Et puis alors, vous avez une petite rue pavée, mais qui a été pavée il y a très très longtemps sans doute.
Oui, on se demande si elle n'a pas été dépavée.
Faut pas venir en talons aiguilles.
Oui, c'est assez étonnant, c'est un mélange, enfin, c'est un peu la campagne à la ville presque, c'est l'impression qu'on a en sortant de la maison. Et puis moi j'aime beaucoup cette entreprise de carrelage parce qu'il y a des livraisons, on a l'impression presque d'être dans un port, il y a des énormes paquets qui viennent de toute l'Europe et des gens qui viennent de partout pour s'approvisionner ici.
Je viens visiter votre bibliothèque, mais j'aime bien regarder les appartements. Et en fait, c'est exactement comme j'imaginais chez vous. C'est-à-dire que c'est très poétique. On entre, il y a une bibliothèque d'entrée. Enfin, d'ailleurs, une bibliothèque dans l'entrée d'entrée. Et ensuite, il y a une bibliothèque dans le salon. Il y a une bibliothèque dans un petit bureau à côté, on va y aller. Mais aussi, on est dans votre petit salon. Il y a une grande bibliothèque, une grande table. Et puis, il y a des guitares et même un banjo. Vous jouez du banjo, dites-nous.
Alors, je joue, c'est un faux banjo. C'est un banjo 6 cordes. C'est pour permettre aux guitaristes de tricher, de donner l'illusion de savoir jouer du banjo.
Mais vous avez une guitare qui fait beaucoup de bruit parce qu'elle a une grande, grosse caisse comme ça. Et puis, vous avez même des percussions. Vous avez des voisins incompréhensibles.
Alors, pour le moment, j'ai jamais eu trop de problèmes avec eux. J'ai jamais écouté la musique assez fort en plus. Mais voilà, j'essaie de faire attention. Mais c'est vrai que les percussions, j'évite passer 20 heures, j'évite de trop en jouer.
Alors, les livres sont un peu partout. Mais vous m'avez dit, attention, les bibliothèques sont réparties en fait.
Exactement, parce que c'est deux bibliothèques qui se sont rassemblées et qui en ont formé qu'une, alors qui est disposée en 3-4 endroits. Il y a plusieurs endroits, il y a même un purgatoire qui est un endroit où on met vraiment les livres qu'on sait qu'on va devoir un jour s'en séparer.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut pas,
parce qu'on
peut pas
tout garder.
Parce que alors, moi déjà j'ai très peu de mémoire, donc parfois là je suis tombé parce que j'ai un peu fait la poussière avant votre arrivée sur la bibliothèque et je suis retombé sur des livres. Je me suis dit et 3, 4, 5 auteurs, donc je me dis mais j'ai dû l'adorer pour lire autant de ces livres et je vois plus ce que c'est. C'est des livres que j'ai lus il y a 20 ans. Alors déjà que j'ai des difficultés pour me souvenir d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois, des livres que j'ai lus il y a 20 ans, je sais plus du tout ce que c'est. Donc soit je les relis. Soit je laisse la place à de nouveaux livres.
Et résultat, on se retrouve dans votre chambre. On va passer à la bibliothèque qui est dans le couloir de l'entrée, qui est votre bibliothèque, si j'ai bien compris. Mais là, on est dans votre chambre. Il y a deux centres de livres. Il y en a une grosse bibliothèque à côté de votre lit. Et puis, il y a une plus petite bibliothèque, là, au-dessus d'un petit meuble. Et je vois Histoire du bonheur en France, par exemple.
Oui, ça, ce sont des livres qui m'ont servi pour l'écriture de mes romans. Donc là, il y a essentiellement ce qui m'a servi pour Les Promesses orphelines, donc où la question du bonheur est une question qui revenait. Il y a aussi une histoire des bistrots.
L'aérotrain aussi.
Voilà, il y a la documentation sur l'aérotrain. Et puis après, il y a la partie plus sur la Première Guerre mondiale qui m'a servi pour le Soldat désaccordé, mon roman précédent. Voilà.
C'est une bibliothèque table de chevet, en fait. Qu'elle est vraiment accolée au côté du lit.
Et elle est faite pour. Enfin, c'est pour ça que la poésie est là. C'est quand avant de m'endormir, j'aime bien lire un petit poème.
Par exemple, vous lisez quoi en général ?
Ça dépend. Alors, l'avantage de ne pas avoir de mémoire, c'est que je peux relire très souvent.
Vous en connaissez pas par cœur ?
Non, j'ai pas de. Je connais des petits bouts par cœur, mais. Alors, par exemple, je sais pas, il y a Gerasim Luka, mais ça, c'est presque un exercice.
Gerasim Luka, ouais, je connais pas.
Un exercice d'orthophoniste. C'est avec une flûte, c'est avec le flux fluet de la flûte que le fou, oui, c'est avec un fou et mou que le fou foule et affole la mort de, c'est l'eau, c'est l'or, c'est l'ogre, c'est l'orgie des eaux dans la fosse molle où les morts flous flottent dessus comme des flots. Le fou est à ce faux, phosphore qui coule, la peau du feu, aux eaux, au flot de la porte, alors que la mort de la mort, de la mort morte et folle, n'est que de l'eau, le logis de la faute qui fausse la logique de loup doux, de la forme en forme de mot, en forme de mort, en forme de phosphore mort. Bon, ça continue après, mais...
C'est intraduisible, ça.
Ben, c'est... Oui, je...
Comment on fait, quoi ? C'est impossible.
Oui, alors, et en plus, c'est assez marrant, parce que dans les... En regardant un petit peu les recueils que je lis, c'est souvent des étrangers, par exemple, enfin, j'aime beaucoup Mayakovsky, ou là, bon, là, c'est Brötigan, traduit par Nicolas Richard.
Excellent traducteur.
Excellent traducteur. Et alors là, j'aime bien cette poésie qui est simple et qui est un peu... j'aime bien être déstabilisé quand c'est un peu bancal. Et là, c'est donc Asile de fous. C'est Baudelaire entra dans l'asile déguisé en psychiatre. Il y resta pendant 2 mois. Et quand il partit, l'asile de fous l'aimait tant qu'il le suivit dans toute la Californie. Et Baudelaire rigolait quand l'asile se frottait contre sa jambe comme un chat étrange. Et c'est ça que je trouve assez fascinant avec Brötigan, c'est que y a déjà cette apparence facilité, il y a ce côté très populaire, et puis il nous amène, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il va nous amener, quoi.
Et parfois, il nous emmène nulle part, et il nous laisse au milieu du chemin, et débrouillez-vous.
Et débrouillez-vous, et c'est pas mal parfois de se débrouiller avec les mots qu'on nous a laissés.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ah, on a du classique, on a Giono, Un roi sans divertissement, Edgar Allan Poe, Histoire extraordinaire, du Nerval, du Buzzati, du Roald Dahl. Là, c'est vos classiques, du Bouvier, tiens, Nicolas Bouvier.
Oui,
là, Garcia Marquez.
Ah, Garcia Marquez, ouais, il y a des 100 ans de solitude. Moi, et mon préféré, je crois que c'est L'amour au temps du choléra.
Ah,
ouais.
Qui est une histoire incroyable.
Qui est une histoire incroyable, que j'ai relu l'année dernière. Et c'est assez rare que je relise des livres. Il y a 2-3 livres comme ça, peut-être 3 ou 4 livres que j'ai relus dans ma vie. Il y a des livres que j'ai très envie de relire. Par exemple, Rouge ou mort, qui est dans l'autre pièce, fait partie des livres de David Peace, que j'ai très envie de relire. Mais c'est assez rare parce que on sait qu'il y a tous les ans beaucoup de livres qui sortent. Beaucoup de,
et pourquoi vous avez tenu à relire L'amour au temps du choléra ?
Parce que ça fait partie des livres que j'ai découvert. Moi, j'ai fait des études d'histoire, et pendant toutes mes études, en quelque sorte, je m'interdisais de lire des romans, ou alors c'était Homère, c'était des livres qui avaient un rapport avec l'histoire. Il fallait que ça ait un rapport avec l'histoire. Et quand j'ai arrêté mes études, j'ai redécouvert le plaisir de lire des romans grâce à une libraire. Je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà, moi j'ai, ça fait très longtemps que j'ai pas lu, notamment de contemporains. J'avais aucune culture de littérature contemporaine, et elle m'a donné 5 livres. Je me souviens, il y avait Le Monde selon Garp de Johnny Irving,
que j'ai vu dans l'entrée.
Oui. Mais que j'ai relu, tiens, d'ailleurs, ça fait partie, décidément. Ah. Ouais, je me contredis, je vais peut-être en trouver plus que 3 ou 4. Voilà, il y avait.
Il est
voilà, Le Monde
selon Garp. Il vient d'être lu parce qu'il est posé. C'est pour ça que je l'ai vu. C'est qu'il est posé à plat sur la bibliothèque.
Exactement.
Comme si vous n'aviez pas encore pris le temps de le ranger.
Oui, puis je l'ai en grand format, parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas très, très ordonné dans ma bibliothèque. Je ne le trouvais plus, donc je l'ai repris en poche, quoi. Et avec Malville aussi, Malville, de Robert Merle, ça, c'est vraiment
un livre que j'ai. Le Monde selon Garp.
Ben c'est la folie de ce texte, c'est la liberté, c'est se dire que raconter des histoires, on peut le faire avec cette folie, avec cette digression. Moi, j'adore le sens de la digression. Enfin, on a l'impression qu'Irving, il tire un fil et il voit jusqu'où ça peut aller. Et tant que la bobine n'est pas finie, il y va, quoi. Et moi, j'aime bien un peu les livres monstres comme ça.
Tiens, bah, y a Nick Hornby, vous avez toute la collecte, on en parlait tout à l'heure, Haute Fidélité, l'histoire de ce type qui range ses vinyles et qui aussi visite ses ex pour savoir ce qu'il a merdé.
Exactement, ça, ouais. Il adore faire des top 5, donc il commence par le top 5 de ses ruptures les plus douloureuses.
Écrivain britannique assez génial, Nick Hornby, il était venu dans l'émission d'ailleurs, et vous avez toute la collection, vous l'avez rencontré ?
Je ne l'ai jamais rencontré.
C'est vrai qu'il est très rock.
Mais c'est vrai et quand on le lit, Nick Hornby a été important, moi, même dans ma vie d'écrivain, parce que les premiers textes que j'ai écrits, en fait, c'est un peu comme quand on le lit, il donne une permission. On a l'impression que c'est un pote à nous qui écrit un livre, et on a l'impression qu'on peut le faire aussi. Alors c'est un piège, hein, parce que mes premiers textes, quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'étais un peu dans l'imitation, sans l'assumer vraiment, mais il a fallu que j'apprenne justement à ne plus me laisser influencer par les gens dont j'avais aimé l'écriture, quoi.
Vous avez un écrivain assez génial aussi, juste en dessous, c'est Will Self.
Ah oui.
Ainsi vivent les morts, britannique lui aussi. Alors lui, il écrit des bouquins parfois complètement lunaires et souvent très drôles aussi. Et notamment, il avait écrit L'Évangile selon Dave, je crois.
Ah oui,
ça.
Ouais,
c'était un chauffeur de taxi qui pérorait toute la journée et le soir notait ses impressions, sa vision du monde de bistrot et qui enterre son carnet dans un jardin, si je me souviens bien. Il y a quelqu'un qui le déterre bien des années plus tard, plus tard, et ça devient l'évangile commun. vous aimez les idées, vous, les romans à idées, quoi.
Bah quand il y a une clé, quand il y a quelque chose d'assez, quand il y a une folie qui est à l'origine de l'histoire, moi je crois que c'est ça surtout qui me plaît, c'est quand il y a quelque chose de fou qui déclenche et qui devient qu'on ne peut plus, qui lance une machine, quoi.
Et Will Self, vous le lisez régulièrement ou suis-je tombé dessus par hasard?
Non, surtout, ouais, vraiment par hasard, parce qu'il est entre Fred Vargas et André Gide, ce qui prouve vraiment que j'ai un souci d'organisation. Ouais.
Quoique vous mettez les,
oui, bon,
les écrivains
Vian,
entre eux. Enfin,
j'essaie, ouais.
Boris Vian, vous avez toute la collecte.
Ouais, Boris Vian, j'ai.
Ça vous va bien, Boris Vian?
J'ai un bon paquet. Moi, je l'ai beaucoup lu quand je suis arrivé à Paris. Et pour une raison toute bête et bassement économique, c'est qu'il y avait une librairie et je connaissais pas bien la loi du prix unique du livre et je pensais que les livres étaient moins chers, je sais plus par quel miracle, et donc je me les achetais en pensant faire une super affaire. Mais et après moi j'avais lu Boris Vian, mais je crois, et plus ça va plus je préfère sa poésie. J'adore Je voudrais pas crever, notamment. Plus que ses romans, finalement.
Vous nous liriez un extrait de Je voudrais pas crever? Peut-être pas tout, mais
oui, parce qu'il est assez long. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre.
Magnifique. J'ai trouvé, pendant que vous lisiez, un livre d'Emmanuel Carrère, qui est le livre d'Emmanuel Carrère d'avant le Emmanuel Carrère de la réalité, du réel, etc., qui est formidable aussi. Mais moi, j'avais beaucoup aimé La Moustache.
Bah, La Moustache, je parlais d'éléments extraordinaires qui déclenchent l'histoire. Voilà. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est l'histoire de ce gars qui se rase la moustache. Il a rendez-vous. Il est tout content de lui. Il se dit, ça va être l'événement. Enfin, mes amis vont dire, tu t'es rasé la moustache.
Parce que sa femme a toujours eu la moustache.
Sauf que sa femme ne lui dit rien. Et lui, il se dit, ok, elle fait semblant, elle va voir jusqu'où ça va nous mener, etc., etc. Mais il se passe rien et ça l'entraîne dans une espèce de psychose. Ils vont chez des amis qui, pareil, personne ne lui fait la réflexion sur la moustache. Et quand au bout d'un moment, il craque, il dit, c'est bon, je me suis rasé la moustache et vous ne dites rien. Et il dit, mais t'as jamais eu la moustache, pourquoi tu nous racontes cette histoire? Voilà. Et l'histoire commence comme ça. Ouais. Je trouve que c'est un super début. Hein.
Très bon point de départ. On parlait tout à l'heure du traducteur Nicolas Richard.
Ah oui.
Il a traduit un livre assez extraordinaire du point de vue de la traduction.
Et intraduisible.
Intraduisible, qui s'appelle Enig Marcheur en français, Enig Walker en anglais. Russell Hoban, écrivain culte en Grande-Bretagne dans les années 70-80, et qui refusait que son livre soit traduit pour une raison simple, c'est que c'est l'histoire d'un gamin après une sorte d'apocalypse, un gamin qui devient le nouveau premier écrivain du monde. Il a 12-13 ans et il réinvente un langage, donc c'est pas vraiment de l'anglais, c'est très bizarre, ça s'appelle le Ridley Speak. D'ailleurs, il y a des clubs en Angleterre de gens qui parlent le Ridley Speak. Et en 2011, Russell Hoban est mort et on a eu le droit de traduire, et c'est devenu Enig Marcheur par Nicolas Richard, qui a dû traduire du faux anglais en faux français.
Exactement. Alors là, on peut. Je trouve qu'à la lecture, à la lecture à voix haute, c'est moins intéressant. Il faut vraiment le lire et se pencher dessus. En plus, c'est édité chez Monsieur Toussaint Louverture, qui fait toujours des très beaux livres. Et il faut vraiment le lire, parce que à voix haute, on voit pas toute la subtilité, toute l'étrangeté du texte. Parce que finalement, à voix haute, ça ressemble à notre langue, quoi.
Ouais, ça commence comme ça. le jour de mon hommage, mais hommage c'est N-O-2-M-A-G-E, le jour de mon hommage pour mes 12 ans, je suis passé lance avant et j'ai oxy un cinglier. Il a été probable le dernier cinglier du baluchon. Enfin bref, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de faire passer cette idée, mais lisez Émile Marcheur.
C'est assez très... dingue de déconstruire comme ça une langue et de la reconstruire de manière un peu bizarre, un peu bancale. Il y a un côté très, très jouissif à lire ça.
Et à côté, vous avez un livre de Ken Kesey, et quelquefois j'ai comme une grande idée, Ken Kesey, qui est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Ouais,
et on rejoint encore la folie, comme ça, de Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a eu le film aussi, donc ça se passe dans un hôpital psychiatrique, c'est un livre terrible et assez génial. Ça vous touche aussi?
Ouais, moi ça me... Et quelquefois j'ai comme une grande idée, ça fait partie pour moi des grands livres de ces dernières années, parce que justement, dans la narration, il nous entraîne à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, enfin vraiment on sort de sa, enfin je sais pas si j'aime tellement l'expression zone de confort, mais il y a quelque chose de cet ordre là où c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de dire j'avais jamais lu un livre comme ça.
Merci beaucoup Gilles Marchand, à bientôt.
Merci beaucoup.
Gilles Marchand, et je rappelle sa bande dessinée Nos Accords Imparfaits, c'est chez Casterman, dessin de Cécile Dupuis. Dans un instant, encore des livres avec les chroniqueurs de l'émission Libraire, Littérature, Jeunesse et Bande Dessinée à suivre. A tout de suite sur Europe 1.
18h-19h, La Voix est Livre.
Nicolas Carreau.
Lu et approuvé, le kiosque des chroniqueurs de La Voix est Livre avec notre libraire du soir, le grand Thibaut Raden, librairie L'Écriture, c'est à Vaucresson, magnifique librairie, La Pimpante, Héloïse Goy, littérature jeunesse, et le facétieux Sébastien Bordenave pour la bande dessinée. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Salut Nicolas, bonsoir à tous. Nicolas.
Honneur aux libraires, comme toujours, de quoi nous parlez-vous Thibaut?
Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la nouveauté des éditions du Penseur.
Ah, c'est vos chouchous, ça.
Absolument, absolument. Et là, premier roman, une nouvelle fois encore, de Elsa Régis, Un abri pour Lampedusa, ça s'appelle. Un abri pour Lampedusa, c'est l'histoire d'un architecte romain qui, au détour de quelques balades et quelques cafés et ou alcool dans un bar, rencontre un type qui est écrivain, qui s'appelle l'écrivain, et qui a un jour écrit une histoire de ces migrants qu'il faisait passer dans son taxi, parce qu'il était taxi avant d'être écrivain. Et donc, comme on parle de Lampedusa, et qu'on parle d'un abri à Lampedusa, on va s'y retrouver, il va y avoir cet abri, non pas construit par cet architecte, mais en tout cas observé par cet architecte. Il n'y a pas de... Ce qui est superbe dans ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas de point de vue, on n'est pas là pour parler de quelque chose de terrible, mais il y a énormément d'élégance, en fait. Il y a un sujet qui est celui qu'on connaît, qui est gravissime, qui n'est peut-être pas, on peut pas le résoudre tout de suite comme ça, mais le regard de l'architecte, donc, qui construit un abri pour des gens qui, en plus de ça, au départ du livre, construit une villa, ce qui est un peu fou quand on imagine cette histoire. En fait, c'est un mec qui marche, c'est un espèce de Rousseau, qui observe les choses et qui observe les gens quand il a l'habitude de construire des choses qui sont pas vivantes. Mmh. Et qui, au travers de son regard, va rencontrer d'autres gens, et au travers du regard de l'écrivain, va rencontrer finalement les gens. Il va apprendre à ce que c'est qu'un être humain. Et quand je dis qu'il y a beaucoup d'élégance, c'est que l'écriture de Elsa Régis, elle est toute en finesse. C'est très subtil. Quand il y a une émotion forte, elle n'en fait pas des caisses, elle fait exactement ce qu'il faut. Donc il y a vraiment un truc qui est de l'idée de la mer qui arrive, qui flotte, qui est très belle. Et quand on rencontre ces migrants, eh ben, elle continue dans cette écriture. Il y a quelque chose de vraiment... C'est un très beau texte. Je pense que si elle continue comme ça, Elsa Régis, elle pourrait faire de choses encore plus belles. Mais ben, premier roman, vraiment, chapeau. C'est très, très réussi.
Ça s'appelle...
Un abri pour Lampedusa.
Et c'est aux éditions du Penseur, P-A-N-S-E-U-E.
Les mots.
Et voilà, absolument. Merci, Thibaut Raden. Héloïse Goy, littérature jeunesse.
Je vous présente un album qui m'a fait rire toute seule comme une enfant, le casting de Gilles Bachelet. Alors Gilles Bachelet, c'est l'auteur du Chat le plus bête du monde ou du Chevalier de ventre à terre. C'est un peu le maître de l'album jeunesse drôle et décalé. En tout cas, moi j'aime à peu près tout ce qu'il fait. Et cette fois, il est à la recherche du héros de son prochain livre. Alors naturellement, il décide de faire passer un casting à toute une galerie de personnages. Et pour ça, il est aidé des personnages de ses précédents livres qui travaillent désormais pour l'auteur à temps plein, c'est bien normal. Et alors, parmi mes candidats préférés au casting, il y a par exemple un T-Rex qui a un trou dans son CV à cause de son congé sabbatique de quelques 66 millions d'années. Bah oui. J'aime beaucoup également le crapaud qui regrette de n'être embauché pour des rôles de prince qu'avant la scène du baiser, le pauvre. Il y a aussi le singe nazique. Vous savez, ce singe avec un énorme nez qui pendouille. Et bah lui, il n'est pas jugé très convaincant dans son interprétation de Cyrano de Bergerac. Pourtant, il a le physique pour. Il y a encore le paresseux qui n'est pas pris malgré son profil intéressant. Bah, faut dire que le problème, c'est qu'il demande des pauses de 58 minutes toutes les heures. Alors, ce qui est formidable, c'est que l'humour de Bachelet fonctionne à tous les âges. Les enfants se régaleront des situations absurdes, des animaux qui débordent de la page et des gags visuels. Et les adultes, eux, repèrent les clins d'œil au monde du cinéma, à Scarlett O'Hara, aux égos débordants des acteurs, aux techniques de manipulation des candidats pour qui tous les coups sont permis. C'est vraiment très fin, très joyeux, avec ce style graphique précis et malicieusement détaillé qui fait la signature de l'auteur. Allez regarder ses dessins, je suis sûre que vous les connaissez. Bref, un album inventif, généreux, qui ne peut que vous faire du bien. Le casting de Gilles Bachelet, c'est au Seuil Jeunesse.
Merci Héloïse Goy et Sébastien Bordenave, vous avez bien deux petites bandes dessinées.
Oh oui, régulièrement dans La Voix et Livre, le plus souvent possible. Bah, dès que je peux, je loue les mérites et le talent de Osamu Tezuka. J'en parle parce que bah, c'est un peu le Walt Disney japonais. D'ailleurs, allez au musée Guimet, c'est jusqu'au 9 mars. Il y a une expo qui s'appelle Manga Tout un Art, pour ceux qui adorent le genre, comme ceux qui sont curieux, qui ont envie de tout savoir sur cet art narratif japonais. Donc Osamu Tezuka, gloire à l'éditeur Delcourt Tonkam, qui fait découvrir, redécouvrir les plus belles œuvres du maître qui nous a quittés en 89 à 60 ans, vient de sortir donc Princesse Saphir. Mine de rien, Osamu Tezuka, il a inventé le shoujo manga.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est plutôt un manga pour les filles, si tant est qu'on puisse
considérer. Mais il y avait un dessin animé, Princesse Saphir.
Ben, exactement.
Pardon, je vous ai coupé.
C'est un peu la grand-mère de Candy, de Lady Oscar.
Voilà, c'est ça.
C'est de la BD avec des personnages qui ont des grands yeux, avec plein d'étoiles dedans. Mine de rien, Princesse Saphir, c'est l'histoire d'un ange qui doit mettre des cœurs à des enfants dans les nuages. Alors, s'il est bleu, l'enfant descend sur terre en tant que garçon. Et s'il est rose, c'est une fille. Et puis, il y a un ange taquin, il va mettre deux cœurs, un cœur bleu, un cœur rose. Oh. Vous imaginez. En plus, l'enfant, c'est celui d'un roi. Et il veut forcément que ça soit un fils s'il veut régner. Donc voilà. Tezuka, il dessine ça quand même en 1953. Quand je dis que c'est un pionnier, je ne mens pas. Ça s'appelle Princesse Saphir chez Delcourt Tonkam.
Princesse Saphir, tu te fais passer pour un garçon, etc. C'était ça le générique.
Je n'ai pas connu, Héloïse.
Bah non,
une nouvelle
facette
de Nicolas Caro.
Une deuxième petite bande dessinée.
Oui, elle se déroule au XIIe siècle, au moment des croisades. La ville de Bethunia. Ces jeux de mots, eh ben non, elle existe vraiment, cette ville, elle est à 14 km de Jérusalem. Cette ville, elle a été envahie durant son histoire par les Égyptiens, les Grecs, les Byzantins, les Romains, les Croisés. Eh ben, il y a Séraphine, qui est forgeronne, qui en a marre, elle est du village. Elle va constituer une bande de 7 mercenaires, leur faire une armure sur mesure. Dans les mercenaires, il y a un Turc, un Templier, une nonne nubienne, une bûcheronne teutonne, un chevalier d'Aliénor. Bref, tout le monde a sa religion, sa civilisation. Et donc, c'est un bouillonnement d'humour pas politiquement correct et c'est historique. C'est un peu dessiné à la Kill Bill. L'histoire rappelle les 7 mercenaires. Nightclub chez
Nightclub, comme un chevalier.
Si nous, on rend hommage à Kurosawa, les 7 samouraïs. Quand
exactement.
Même.
Là, c'est édité chez Dupuis. C'est de Arthur Depin, une valeur sûre de la BD depuis très quelques temps. Nightclub, c'est en 2 tomes. Et bah, franchement, le 1 est drôlement bien.
Voilà. Ah bah vous avez eu un petit dessin en plus pour la dédicace. Bravo Sébastien Bordenave. Vous nous rappelez, c'était Princesse Saphir et donc Night Club. Héloïse Goy, vous nous rappelez?
Le casting de Gilles Bachelet au Seuil Jeunesse.
Et Thibaut Raden?
Un abri pour Lampedusa de Elsa Régis.
Merci.
Penseur.
Édition du Penseur, merci beaucoup. Une petite citation pour terminer, Sébastien?
Oui, 5 fruits et légumes par jour, c'est supportable si on compte les fruits de mer. C'était le chat de Gueuleux.
C'est vrai.
C'était Nicolas Caro que vous retrouverez dimanche prochain dans La Voix et Livre de 18h à 19h sur Europe 1. La suite du programme Dis-moi ce que tu chantes avec Didier Barbelivien et son invité, en l'occurrence Max Guasini, qui est donc secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot, puis qui était aussi son ami. Voilà, on va se replonger dans l'émission après Adamé. Petit-fils de sculpteur, fils de musicien, d'une prof de danse orientale, mais son truc à lui, à Adamé, c'est d'écrire des chansons. Et bien justement, voici une, Au bout de la nuit.
Allongé sur son lit, pense encore à lui comme une... distance. Elle attend dans le noir un regard, une chance. Oh 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 oh